Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré.
Tous les cinémas du monde, avec une émission consacrée cette semaine au comédien le plus populaire de l'histoire du cinéma, connu sur tous les continents, de l'Afrique à l'Asie, qui n'a jamais essayé de l'imiter, hein, le petit homme à la canne virevoltante et au chapeau melon. J'ai nommé Charlie Chaplin, né le 16 avril 1889, il y a tout juste 130 ans.
C'est bella, tu sais d'ore, je n'entrais ce que fore, je n'entrais si t'avore, je la coula, tu la toile.
De Charlot à Sir Chaplin, on va vous raconter cette trajectoire exceptionnelle, hein, des rues miséreuses de Londres où il est né, au manoir suisse où il termine ses jours, couvert d'honneur pour disparaître un soir de Noël, le 24 décembre 77. Plus de 80 films, dont une majorité de chefs-d'œuvre. Il n'y a peut-être pas d'autres cinéastes qui, sur la base d'un amour foncièrement populaire, aient construit une trajectoire aussi résolue vers l'art le plus exigeant, le plus élevé, le plus engagé. Je vous cite Jean-François Buret. Vous êtes essayiste et professeur de cinéma, rédacteur en chef du site UPOPI, le site de l'Université populaire des images de la région Centre-Val-de-Loire. Bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Et avec nous pour parler aussi du vagabond à la canne, Olivier Mongin. Vous êtes écrivain, essayiste, vous dirigez la revue Esprit.
J'ai dirigé la rédaction. Je ne le suis plus directeur de la rédaction.
Et vous avez accordé, c'était en 2002, je crois, tout un essai éclat de rire au corps burlesque, où vous accordez une grande place à Charlie Chaplin. Alors, dans la masse des comédiens burlesques des débuts du cinéma, on pourrait en citer des dizaines, hein, Buster Keaton, Harold Lloyd, Fatty Arbuckle, je sais que c'est l'un de vos préférés,
oui,
Olivier Mongin, Mabel Normand, Charlie Chase. Comment vous expliquez la renommée, la trajectoire exceptionnelle de Charlie Chaplin, Jean-François Buret?
Je pense que c'est un parcours qui peut difficilement être comparé avec à celui d'aucun autre homme de cinéma, même au-delà du burlesque. La vitesse avec laquelle cet homme qui venait d'un comique de scène est arrivé au cinéma à 25 ans et dans l'année où il a fait ses premiers pas en cinéma est devenu l'homme le plus vu de l'histoire de l'humanité. Tout simplement, aucun homme n'avait été autant vu et autant aimé. Plus tard, dans certaines circonstances, autant détesté aussi, est déjà phénoménal. Et puis, le parcours de réalisateur, ce qui est très impressionnant, c'est de regarder la façon dont, là aussi, en quelques années, en 5 ans, il va passer de, entre guillemets, simple comédien à peut-être là aussi l'homme qui a le plus maîtrisé son art, au sens où il est devenu de comédien, il est devenu producteur, réalisateur d'abord, producteur, et puis il a fait en sorte de pouvoir contrôler en partie la distribution de ses films, jusqu'à devenir aussi le compositeur de la musique de ses films, une sorte d'athlète complet du cinéma.
On aura l'occasion d'en reparler, Olivier Mongin. Je vous vois acquiescer. C'est vrai que le nom de Charlie Chaplin se confond avec celui de Charlot. Cette
oui, mais comme on vient de le dire, comme Jean-François vient de le dire, ce qui est très important, c'est de comprendre que c'est en un an, si je me trompe pas, The Trump, qui est le personnage où il arrive comme Charlot.
The Trump, c'est le vagabond.
Il fait une quarantaine de shorts, c'est-à-dire des courts-métrages burlesques où tout le monde est sens dessus-dessous, hein, où c'est la tarte à la crème, mais très vite émerge, ce qui n'est pas le cas chez Keaton, où il n'y a pas de personnage qui émerge, hein. C'est comme si Scapin arrivait très vite en sortant de la Commedia dell'arte. Et très très vite, il sort, mais en même temps, il a fait, ça a été dit, il a fait une quarantaine sinon plus, mais après le personnage est là, qui se constitue très vite, on a même Charlot et le parapluie. Et après, moi ce sur quoi j'insiste, c'est que c'est des rôles muets, et que Chaplin a toujours tenu, il a eu du mal avec l'oral, beaucoup plus que d'autres. Au passage, il disait toujours, je me trouve très à l'aise avec le muet, et si les signes universels, n'oublions jamais, c'est que le cinéma burlesque est muet, mais ça on le rappelle pas assez souvent, et qu'étant muet, ben, il est entendu par tout le monde.
Hein. Le monde entier et son public.
Voilà, d'un ami, là, comédien Fela, qui est un des grands comiques contemporains, il me disait, c'est en Kabylie, il habitait la Kabylie jeune, qu'on voyait dans des petits cinémas en plein air, qu'on voyait les petits shorts de Charlie, il dit, c'est là que j'ai tout appris. Hein. Mais c'est très important de comprendre que le fait de ne pas parler fait qu'on est entendu beaucoup plus facilement. Et puis après, on va peut-être y revenir, dans ce burlesque, il y a une méchanceté chez Chaplin qui va...
Alors justement,
elle est là avec une présence incroyable,
on va en reparler, Olivier Mongin, mais déjà, d'abord, on pourrait peut-être essayer de décrire Charlot. Donc, la petite moustache du dandy, le pantalon informe de l'émigrant, et puis la canne. Alors ça, la canne, c'est un coup de génie.
La canne, oui, effectivement. Alors,
lui-même n'avait pas anticipé à quel point ce serait génial pour lui d'avoir une canne qui lui permettait d'accrocher des gens, des objets, de les taper.
Si on en croit Chaplin, la constitution de cette panoplie se serait faite très rapidement lors d'une visite au magasin des accessoires du studio Keystone, le premier studio pour lequel il a travaillé. Ça paraît un petit peu trop beau pour être vrai, mais en même temps, on se rend compte, quand on lit la biographie de Chaplin, qu'elle est finalement sans doute beaucoup plus fidèle à la réalité qu'on ne pourrait le croire, étonnamment. Et effectivement, il aurait eu cet éclair de génie de composer quelque chose, un mélange de trop grand et de trop petit, entre le pantalon, les chaussures. En gros, le haut est trop petit, chapeau et veston, et le bas est trop grand. Et puis, effectivement, à côté de ça, cette canne qui le sort de bien des péripéties, qui lui donne une contenance, une dignité. Et c'est vrai que, par exemple, si on prend la fin des Lumières de la Ville, quand le personnage ressort plus miséreux de jamais d'un nouveau passage en prison, on se demande pourquoi il paraît à ce point misérable, et on peut se rendre compte, au bout d'un moment, on se dit « Ah, mais il n'a plus sa canne ». Et l'absence de cette canne ajoute terriblement à la misère du personnage à ce moment-là.
Oui, voilà, juste pour ajouter un mot, moi ce qui me frappe beaucoup dans le vêtement Chaplin, c'est qu'il emprunte aux gens du haut. Il y a le côté dandy, qui est celui de Max Linder, qui est un comique français de l'époque, qui lui a d'ailleurs une canne, un chapeau, haute forme, et puis est extrêmement bien habillé. Et de l'autre côté, il y a le côté vagabond. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, on a avec Chaplin le personnage un peu à l'anglaise. Il y a la moustache qui est très empruntée de l'Angleterre. Il réfère souvent à un comédien anglais, hein, qui était de la bande de Fred Carnot, qui est venu aussi dans la bande de Fred Carnot. Mais moi, ce qui me passionne, c'est de voir que tout de suite, on voit le côté biface de Charlot, qui veut être un peu aristo, qui va essayer d'aller chez les aristos, et qui est en même temps un personnage du peuple, un vagabond. Et ça, il joue ça très bien. Alors, après, la canne, c'est merveilleux. Ça, je sais pas qui l'emprunte, il en parle très bien. Mais je rappelle toujours ce que dit Jacques Tati. Jacques Tati, il dit ce génie de Chaplin, il a sa canne pour s'élever, et lui, Tati, il a un parapluie qu'on voit un peu partout. Il dit, j'ai mon parapluie pour ne pas tomber. Et là, on voit le changement de monde qui s'est fait. C'est-à-dire quelqu'un qui essaye de s'élever et l'autre qui est un très grand comique aussi, mais qui n'a rien à voir et qui, effectivement, de la canne au parapluie, c'est extraordinaire.
Et lui, en fait, on parlait tout à l'heure d'artiste complet. C'est un enfant de la balle. Il a commencé, alors c'est un peu la légende, hein, vous allez me dire si c'est vrai ou faux. Mais on dit qu'il a commencé à l'âge de 5 ans.
Il est monté
sur scène pour la première fois à l'âge de 5 ans parce que sa mère était aphone. Oui, sa mère qui était elle-même
c'est un premier,
comédienne.
Alors, après, si on regarde précisément la biographie de Chaplin, c'est une première incursion dans le monde du spectacle qui ne s'est pas prolongée immédiatement. Après, c'est dans la jeune adolescence que Chaplin est revenu sur les planches. Mais effectivement, on a pas mal commenté cette première interprétation scénique parce que Chaplin était en quelque sorte venu au secours de sa mère qui était une chanteuse, actrice et chanteuse de music hall que Chaplin admirait énormément et qui aurait été pris d'une crise d'aphonie, d'une perte de voix pendant un tour de chant. Et le petit Chaplin, à 5 ans, serait venu la remplacer sur scène.
Donc sauver sa mère.
Sauver sa mère, avec en même temps ce qui a commencé à être évoqué, c'est-à-dire en même temps la cruauté, puisqu'il semblerait, si on l'en croit, qu'il l'ait en même temps imité en train de perdre sa voix. Donc à la fois venir à son secours et introduire d'emblée un élément un peu de cruauté
qui
va être toujours présent chez Chaplin par la suite.
C'est très important, c'est de bien comprendre, c'est des gens formés au music hall. C'est même pas le théâtre, c'est au music hall. Et le music hall, à l'époque, c'est la pantomime, c'est le côté burlesque, les tartes à la crème sur scène. Et ce qu'ils vont apprendre, mais Jean-François en parlerait mieux que moi, c'est à produire des gags qui ne sont plus des gags que l'on fait en public, en scène, où là, on peut prendre le temps, on attend les réactions du public. Au cinéma, et là, c'est le côté technique et le génie du réalisateur qui va intervenir, il va falloir que les gags soient d'une certaine manière chronométré, c'est-à-dire que le gag il est resserré, et c'est là où le génie va être absolu. Mais le passage du théâtre au cinéma est tout à fait central. Et dans tous les premiers sketchs, on voit très bien aussi qu'il se fout de la gueule du musicals, excusez-moi l'expression, mais on parle de burlesque. Il se fout de la gueule aussi de la manière dont on fait des films. Charlot accessoiriste est un truc extraordinaire. On est en studio comme chez Jerry Lewis plus tard, on s'envoie à la figure tous les instruments du studio, c'est comme si l'on cassait le studio de RFI. Il y a un de mes films préférés qui est un short, un court-métrage qui est Charlot Musical, où déjà il joue en bas le dandy, hein, qui va foutre le foutoir en parlant de burlesque, de côté de la haute classe qui est en bas, et puis de en haut il y a le vagabond, c'est lui qui joue les deux rôles, qui va s'amuser avec une lance d'incendie à arroser tout le monde. On a les deux chaplains qui sont là tout de suite, c'est extraordinaire, habillés en dandy, habillés en clochard, et au milieu il y a Charlot qui a les deux habits, je dirais.
Alors justement, on va en parler de Chaplin au travail, mais avant je voudrais vous faire écouter une archive exceptionnelle, c'est une archive de la BBC, un entretien que Charlie Chaplin a accordé à la BBC en 1954. Et justement, le journaliste, ça va vous faire plaisir, Olivier Mongin, parce que le journaliste lui pose la question du timing exceptionnel de ses gags.
My mother gave me that.
Je le dois à ma mère. Elle avait beaucoup de grâce naturelle. C'était une danseuse, vous savez. Ces choses sont plus ou moins instinctives. C'est comme jouer la comédie. On ne peut pas apprendre à quelqu'un à jouer la comédie. Et pour revenir au sens du timing, savoir combien de gags je mets dans une scène. Vous savez, au théâtre, il faut attendre que le public ait ri pour passer au gag suivant. Pas au cinéma. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Être face à une caméra, c'est encore plus terrifiant que d'être ici à la radio à parler à plus de 40 millions d'auditeurs. Avoir un public en chair et en os devant soi est une chose, mais avoir une caméra, cet œil énorme et froid qui vous regarde, et vous ne pouvez vous fier qu'à votre imagination, qu'à votre sens des proportions et à votre timing qui vous dit quelle place le gag doit occuper dans la scène.
Alors là, Jean-François Buret, Olivier Mongin, j'apporte de l'eau à votre moulin. En même temps, on peut imaginer qu'il exagère un peu parce qu'on a l'impression que ça lui tombe du ciel, cette grâce exceptionnelle, alors que c'était un... Enfin, j'allais dire, c'est un bourreau de travail. Oui, en fait.
Je pense que peu de personnes ont autant travaillé, œuvré à leurs œuvres cinématographiques que Chaplin. C'est, d'ailleurs, ça a été le problème de sa vie avec, entre autres, ses compagnons successifs qui se rendaient compte toujours très vite que leur principal rival était le travail de Chaplin, ouais. Qui pouvait, lorsqu'il se mettait au montage par exemple, ne pas quitter le montage, il travaillait jour et nuit tant que le montage n'était pas terminé. Et en fait, si on regarde bien les moments où il s'est arrêté, il ne s'est arrêté que lorsque la machine corporelle ne suivait plus, lorsqu'il atteignait un point d'épuisement physique et ou psychologique qui faisait qu'il devait s'arrêter.
Oui, il est déjà assez âgé, hein, alors que Keaton arrête très vite.
Il a fait des dépressions, il a eu des moments de...
Oui, mais le corps tenait quand même.
Mais le corps tenait.
Le corps gymnaste, oui. Oui.
Et il y avait peut-être une hygiène de vie qui n'était pas tout à fait celle de Buster Keaton, qui a eu très jeune des gros, gros problèmes avec l'alcool.
Qui les a eus à partir du moment où il a été un peu dessaisi de son...
De la capacité de produire ses films.
Voilà, exactement. Chaplin, c'est vrai que... Mais une des choses qui permet vraiment de comprendre de Chaplin, c'est... Il faudrait y consacrer presque une émission entière. C'est la dureté. C'est d'ailleurs les plus belles pages, je pense, de son autobiographie. C'est la dureté de son enfance qui a fait que il a décidé très tôt, manifestement, que plus jamais il n'aurait enduré certaines choses qu'il a vécues dans l'enfance. Et il s'est, d'une certaine façon, beaucoup protégé. Entre autres, il a fait quelque chose que Keaton n'a pas fait, parce que il n'a pas eu à subir les affres des manques matériels dans son enfance. C'est que il a toujours essayé de faire en sorte d'être absolument, enfin très 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 tôt, indépendant financièrement, ce qui lui a permis... Un film comme Le Dictateur n'aurait jamais existé si Chaplin avait dû compter sur le bon vouloir des producteurs hollywoodiens. Pour revenir à la grâce et à la spontanéité du génie. Il est certain que Chaplin, on l'évoquait ensemble tout à l'heure, que dès qu'il était filmé, même dans une petite réception, il pouvait improviser un impromptu extrêmement charmant. Il avait effectivement cette grâce naturelle dont on a souvent dit qu'elle était peut-être essentiellement celle du danseur, là où Keaton était peut-être plus, par exemple, un acrobate. Mais en même temps, effectivement, après, les choses étaient extrêmement retravaillées, et même si on sait que Chaplin écrivait pendant longtemps à très peu, comme beaucoup de burlesques d'ailleurs, a très peu écrit ses films comme on les écrit aujourd'hui par le menu, mais par exemple, la scène, la fameuse scène de la map monde dans
Le Dictateur
était écrite très précisément en une dizaine de mouvements très précis. Quand on lit le déroulé, on a l'impression de voir ce qui se déroulera sur l'écran. Donc tout ça était quand même extrêmement, extrêmement réfléchi.
Vous m'avez donné un chiffre extravagant tout à l'heure sur le tournage d'un film de Chaplin sur les kilomètres de pellicule.
Oui,
plus me disiez-vous que sur Naissance d'une nation de Griffiths.
C'est ça.
C'est pourtant un film de 3 heures.
C'est un peu le problème quand on parle de Chaplin, c'est ses côtés presque systématiquement superlatifs qui peut finir par un peu fatiguer. Mais c'est vrai qu'on y est un peu obligé. Tant par exemple sur ce qu'on appelle le ratio, c'est-à-dire le rapport entre la longueur, le métrage de pellicule filmé au tournage et celui qui est effectivement utilisé dans les films, ce ratio est sans doute le plus important qu'on ait trouvé chez aucun cinéaste. Et effectivement, quand il fait Les Migrants, qui est un film qui doit durer une vingtaine de minutes, on se rend compte que Chaplin avait utiliser un film, vraiment beaucoup, beaucoup plus de pellicules que Griffith, qui avait tourné un an avant
trois heures de film,
enfin un film qui durait au bout du compte 3 heures, une épopée extraordinaire. Mais voilà, il faudrait évoquer les méthodes de tournage de Chaplin qui est que peu de cinéastes là aussi ont pu se permettre.
Et c'est peut-être pour ça qu'il ne pouvait être que son propre producteur. Célébrissime danse des petits pains dans la ruée vers l'or, un film qu'on a tous vu enfant. Et pourtant, étrangement, et vous le dites d'ailleurs dans votre livre, Olivier Mongin, Chaplin, ça n'est pas forcément pour les enfants.
Non, mais surtout
et d'ailleurs,
au
départ, le personnage n'est pas très sympathique.
Non, mais au début, on a évoqué, je ne vais pas y revenir trop, les courts-métrages sont toujours très durs. On parle de Chasse Chaplin à l'époque. Chasse Chaplin, c'est le méchant Chaplin. Et à l'époque, W.C. Fields et tous ces grands burlesques, c'est des gens qui sont des cogneurs. Et on appelle aussi ce burlesque slapstick. Slapstick, c'est donner des coups, c'est les coups de bâton. On est dans la pantomime, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, mais la méchanceté est quand même importante. Moi, j'oublie jamais le short, le court-métrage où il, avec un comparse, il tape sur la tête d'un môme pour l'enfoncer dans la terre. Il y a celui où il doit protéger quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant. Ben, le plus simple, il veut s'en débarrasser, il le noie, etc. On peut trouver 40 exemples. Jean-François les connaît mieux que moi. Mais il y a un côté, il y a une méchanceté qui est liée au burlesque, mais pas uniquement au burlesque. Il y a un côté mélo chez Chaplin qu'on va retrouver dans l'opinion publique, dans Verdoux, qui est très important parce qu'il a une vision noire de la société.
Voilà,
qui a déjà
on
été...
aura l'occasion d'en reparler.
Mais c'est très important de comprendre que dès le départ, mais après La Ruée vers l'or est un des films peut-être les plus chaplinesques au sens les plus détendus, où il raconte une histoire très américaine, puisqu'il faut essayer d'aller trouver, bon, lui qui aime pas l'Amérique finalement, qui aime pas l'Amérique du grand capital, celui que Verdoux va essayer justement de battre. La Ruée vers l'or, c'est un des films qui est les plus américains au sens là, il joue le rôle du pionnier qui va y aller. Alors que c'est jamais un pionnier, c'est un migrant qui essaye de frapper à la porte des gens qui sont en haut, ben finalement il comprend très vite que ça n'a pas de sens.
Mais alors Charlot apparaît, et là je parle du Charlot qui imbrique justement le rire et l'émotion, pas le Charlot de Kids Auto Races par exemple. Je crois que c'est la première apparition de Charlot en 1914.
Dans son costume de vagabond.
Oui. Et là effectivement il est agressif, il attaque les enfants, il fume. À quel moment ça va basculer?
L'irruption de la tendresse, du sentiment. Je crois que Chaplin lui-même en parle pour la première fois, si je me trompe pas, à l'occasion de Charlot Soldat, s'inquiétant, ne sachant vraiment pas, pour nous aujourd'hui ça va de soi, c'est devenu presque le sentiment de Chaplinien type, c'est aller et retour entre le sentiment et l'émotion, entre
le rire et l'émotion. Deleuze parlait du court-circuit rire-émotion.
Voilà, c'était Deleuze qui employait cette expression. Mais à un moment donné, il a fallu qu'il l'invente. Effectivement, il partait de cette violence burlesque, le fameux coup de pied au cul chaplinien, et à un moment donné, il a vraiment eu cette invention d'une forme plus mélangée dont il s'inquiétait, il savait pas comment le public allait réagir. Et d'ailleurs, il me semble bien que La ruée vers l'or, qui est devenu un des plus aimés des films de Chaplin, sur le coup, a un peu déçu son public parce qu'il n'était pas assez franchement burlesque. Ça n'allait pas de soi à l'époque. Après, ça a séduit le monde entier. C'est vrai qu'entre-temps, ce qui contredit un peu ça, c'est quand même le gigantesque succès sur le moment du Kid, qui est peut-être le moment où il affirme le plus franchement cette irruption de l'émotion, la scène où on cherche à arracher l'enfant à Chaplin est peut-être le moment où on sent que cette affirmation de la sentimentalité, qui d'ailleurs sera, on sait, aussi très mal reçue par certains des admirateurs de la première heure de Chaplin, comme les surréalistes qui adoraient cette violence initiale. Et pour prendre quelqu'un qui n'était pas un surréaliste, on sait que par exemple l'écrivain André Suarez avait cette phrase terrible au milieu des années 20, il disait « Le cœur ignoble de Charlot, je voudrais pouvoir l'écraser comme une punaise. » Donc on sentait une réaction très violente à cette irruption de la sentimentalité chez Chaplin.
Musique très hispanisante des lumières de la ville, donc musique composée par Chaplin lui-même. Et donc là, on parlait tout à l'heure du Kid, hein, où il essaie de sauver un jeune enfant des rues. Là, c'est une jeune aveugle. Et au fond, vous disiez tout à l'heure, Olivier Mongin, qui est Charlot ? Vous vous dites, c'est quelqu'un qui pense puissamment que le monde peut être transformé.
Non, parce qu'il n'est jamais vraiment gentil. Enfin, je ne sais pas si Jean-François sera d'accord, mais moi, ce qui me fascine, c'est qu'il n'est jamais gentil. Ça ne veut pas dire qu'il sait que le mal va toujours l'emporter, mais il sait que même un gentil, il n'y a pas. On va beaucoup l'accuser d'être un humaniste, et on va l'accuser d'être communiste aussi, sans aucun rapport avec la réalité, mais les Américains vont l'accuser là-dessus. Au sens, tu crois que le monde peut faire que nous sommes tous des égaux, nous aimer les uns les autres. Un côté catho-communiste, pour parler comme ça. Mais pas du tout. Chez Charlie, moi, honnêtement, je ne connais pas de film. Le film peut-être le plus heureux, qui est le plus américain, c'est La ruée vers l'or. Chaplin, il va pas arriver par hasard à Monsieur Verdoux. C'est-à-dire qu'il ne croit pas qu'on change le monde. Et c'est ça qui est un peu
Monsieur
compliqué.
Monsieur Verdoux, il incarne de Landru.
Et moi, je pense que le génie de Chaplin, c'est de jouer toujours le rapport avec une espèce de violence, ou de plus ou moins de violence, je dirais, entre le bien et le mal. Mais il sait très bien que le bien ne l'emportera jamais. Et c'est ça que je trouve tout à fait, et c'est ce que tout le monde pense. D'une certaine manière, c'est la condition humaine dans toute sa beauté. Voilà, mais il n'est pas du tout dans des rêves utopiques, contrairement à ce qu'on a pu laisser entendre. Je pense, il ne croit pas qu'on va transformer le monde. C'est bien. D'ailleurs, il le sait très bien, puisqu'il va devoir quitter les États-Unis lui-même sous le coup des polémiques, sous le coup des harassements, etc.
Du macartisme.
Et en plus, mais ça, Jean-François en parlera peut-être mieux que moi. C'est quelqu'un qui ne croit pas tant que ça. C'est pas lié à sa biographie, à l'amour. Un des premiers films, c'est un idylle à la campagne, si je dis pas de bêtises.
Au champ.
Oui. Et c'est un film qui montre quand même que l'amour, c'est très compliqué. Donc on n'a même pas la réponse par l'amour, par le couple, par l'amour à deux. Hein, chez Chaplin comme chez Keaton, le couple, c'est comme tout d'ailleurs chez Laurel et Hardy. On ne croit pas au couple d'une certaine manière. Hein, c'est tout à fait...
Eux forment un couple.
On est d'accord, mais bon, je ne voulais pas compliquer.
Est-ce qu'on peut s'arrêter sur le Chaplin émigré ? Parce que vous disiez tout à l'heure, Olivier Mongin, que Keaton, c'est plutôt le rôle du pionnier.
C'est le pionnier,
Chaplin,
c'est le cow-boy.
C'est l'émigré, les migrants. Je voudrais citer Marguerite Duras dans un numéro spécial des Cahiers du cinéma, Les yeux verts, qui écrit « L'errance de Chaplin est sans limite géographique. Il traîne avec lui un continent juif européen. Partout où il est, c'est un étranger. » Vous êtes d'accord ?
Oui, oui. Et on en a souvent tiré d'ailleurs des conséquences esthétiques quant à la façon précise dont Chaplin donnait à voir le monde. Et plutôt, on a souvent dit que Keaton, c'est le monde, dans toute son immensité, dans toutes les surprises qu'il peut receler. Et Chaplin, c'est plutôt la société. Et que chaque cadre qu'élabore Chaplin, c'est une sorte d'équivalent, c'est un petit cadre social.
C'est une micro-société.
C'est une micro-société dans laquelle il essaye de, comme il était dit tout à l'heure, il essaye de garder à sa place contre toutes les adversités possibles, et ça commence très tôt. On prend souvent ce film comme exemple patent, alors que c'est un tout petit film que Chaplin n'avait ni scénarisé ni mis en scène, sur lequel il maîtrisait très peu de choses, mais c'est ce Kids Auto Races in Venice, donc qui est le premier film dans lequel on le voit dans
avec
ses attributs
de
du vagabond. L'histoire, c'est simplement quelqu'un qui ne veut pas être expulsé du cadre, c'est-à-dire qu'il s'interpose entre une course de voiture amateur et la caméra, et on n'arrête pas de le jeter en dehors du cadre, et il ne cesse d'y revenir. Et c'est vrai que, et c'est bon, c'est aussi une chose qu'on a beaucoup reproché à Chaplin, c'est le côté un peu « je ne veux voir que moi-même », le côté complètement autocentré, alors que chez Keaton, c'est le côté « l'important, c'est ce qu'il y a au-delà du cadre, c'est les surprises que vous nous réservez, ce qui est au-delà du cadre ».
Mais en même temps, c'est le premier burlesque qui inscrit la forme burlesque dans la grande histoire, non ? Je me trompe ?
Oui, mais moi, je pense que cette question du personnage du migrant, qui effectivement, je suis d'accord, fonctionne, on voit dans les chants, dans la petite société, je veux rentrer dans les hôtels, il y a toujours, c'est toujours dans les sas, dans les entre-deux que ça se passe, avec lui, et puis il se fait sortir par les flics ou par les gens qui sont à l'entrée des palaces. Mais moi, je pense que le côté migrant est fondamental, d'ailleurs, sur tous les grands comiques. Et ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est pas par hasard aujourd'hui que les comiques qui ont rien à voir avec Chaplin, même en France, sont souvent des gens issus de l'immigration. C'est des gens qui sont entre deux, justement. Et je donnerai qu'un exemple, c'est le Pèlerin. Le Pèlerin, la fin du Pèlerin, ça se passe où ? Il est entre le Texas et le Mexique. Et il est viré du Texas par le shérif, puisque effectivement on a découvert qu'il était un faux pasteur. Mais du côté du Mexique, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gens, et là c'est des brigands, c'est l'image du Mexique à l'époque, il y a des brigands qui l'attendent. Donc c'est quoi Chaplin ? Mais on trouverait ça chez Keaton et chez les grands comiques. Chaplin, il est toujours sur la ligne de front, qui est la ligne frontière. Et la fin du Pèlerin, qui est pour moi un truc magnifique, qu'on peut repasser aujourd'hui pour faire comprendre ce que c'est que la question de la migration. Il est sur la ligne blanche qui marque la frontière, en sachant que s'il va d'un côté, il risque de tomber et de se faire piéger, et de l'autre côté, pareil. Et je vous rappelle, après, la plus belle scène pour moi de Chaplin, c'est le cirque, quand il est sur le fil, avec les petits singes qui essayent de... Il est funambule, de le faire tomber. Vous voyez, on a toujours la même scène, qui est pour moi la scène des très grands comiques, qui arrivent à sortir du burlesque. C'est la scène où ils sont en déséquilibre entre un espace et un autre.
Ouais, c'est ça, c'est une métaphore, en fait, de l'émigré, de la figure
oui,
de l'émigré.
Oui, mais c'est pour ça que cette métaphore, on peut la mondialiser. Et aujourd'hui encore, elle a tout son sens. On peut montrer du Chaplin et montrer le sens que ça peut avoir. On sait que la question des migrants est aujourd'hui centrale. On sait tout ce que ça signifie. Et moi, je trouve que c'est cette image de la ligne frontière où il est entre les deux, c'est tout Chaplin. On voit bien qu'en Europe, dans son manoir, je suis pas sûr qu'il soit si heureux que ça. Il est toujours entre deux. Il est entre deux, mais le génie est toujours entre deux.
Est-ce qu'on peut parler du succès de Chaplin ?
Ce qui est de toute façon stupéfiant, c'est à quel point l'importance qu'il a eue dans la vie de tout un chacun pendant plusieurs décennies. Je pense pas, là encore, qu'il y ait, quels qu'aient été les immenses phénomènes médiatiques, de célébrité qu'il y a eu depuis, quelque chose de comparable. Et je dis souvent que peut-être le seul être de cinéma qui peut lui être comparé en termes d'importance et d'identification, de rêverie autour du personnage, ce serait Mickey, qui partage avec Chaplin ce côté très graphique, cette silhouette reconnaissable entre toutes, ce mélange de noir et de blanc.
Mickey aurait même été inspiré
par Charlot. Il semble que Disney, au départ, aurait, pour certains traits de caractère du premier Mickey, l'espièglerie, l'insolence, le côté culotté, littéralement d'ailleurs culotté, ça soit inspiré entre autres de Chaplin, oui, absolument.
Et donc ce succès, enfin on dit que il produisait tellement de films que les exploitants n'avaient même pas le temps de fabriquer des affiches, donc on était obligé de mettre une sorte d'effigie générique de
Chaplin. Jusqu'à un certain moment, parce qu'il y a un moment, au contraire, les films se font de plus en plus éloignés, espacés dans le temps, jusqu'à se raréfier énormément. À un moment donné, la norme était devenue 4 à 5 ans entre chaque nouveau film, parce que chaque nouveau film devenait un enjeu. C'est aussi ce qui est très impressionnant, c'est que il a relancé les dés à chaque nouveau film. Il a réellement
pris des
risques nouveaux à chaque fois, que ça soit en termes esthétiques, techniques, politiques. Ce qui fait qu'il a il est parti de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ce personnage, ce roi de la pantomime, et qu'au bout du compte, enfin au bout du compte, c'est au mi-temps de sa carrière, il devient l'homme qui va employer la parole comme jamais on ne l'avait employé et comme, à mon avis, là aussi, jamais personne ne l'a employé de la même manière en cinéma. Cette façon de prendre la parole à la fin du dictateur pendant plusieurs minutes en regardant dans l'axe de la caméra et donc en donnant l'impression au spectateur qu'il est regardé les yeux dans les yeux et de lui adresser un discours, pour le coup, un vrai discours pacifiste, c'est stupéfiant. Là encore, quel que soit l'avis, le goût qu'on a pour cette fin, c'est stupéfiant.
C'est un coup de génie et on aura l'occasion d'en reparler. Mais avant, je pense qu'il faut dire aussi qu'il a résisté très longtemps. Au parlant. Et d'ailleurs, il y a résisté très longtemps et sa méfiance, son opposition ne s'est jamais démentie. Écoutez, c'est toujours cette interview accordée à la BBC, on est en 1954. Donc il a déjà fait le dictateur, il a déjà fait les feux de la rampe, et pourtant, il continue à se méfier du parlant.
Je pense qu'il y avait tant de choses laissées à l'imagination dans les films muets. Il y avait les ombres, il y avait de la poésie. Maintenant, tout est tellement réaliste. La poésie s'est perdue. Vous savez, je pense que c'est la contrainte qui fait la grandeur des œuvres d'art. Comme la peinture, c'est en deux dimensions. Regardez les grands maîtres, regardez Rembrandt. C'est exactement la même chose pour les films muets. Au moment où on les a rendus parlants, ils sont devenus ternes. Bon, là, j'ai une vision un peu romantique du passé. Aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de bons films.
Il s'accorde quand même à dire à la fin qu'on voit quand même beaucoup de bons films parlants. Mais on sent, c'est quand même en 1954. Donc, il reste quand même persuadé que le sommet de la mise en scène ne peut pas... Enfin, que le fait de donner le parlant au cinéma a été plutôt un pas en arrière qu'un pas en avant.
Oui, moi je crois qu'il faut toujours revenir quand même à cette idée que le burlesque, on le prend au sens large, que disait Serge Danet, est peut-être le plus grand moment du cinéma. Parce que c'est muet, je reviens à ça, et que quelqu'un qui a une dimension universelle comme lui est très corporel, c'est beaucoup plus facile, pas facile, je mets beaucoup de guillemets, c'est beaucoup plus facile de se faire entendre sans la parole, justement. Et c'est ça quand même, c'est le corps qui parle. On a là affaire à des corps multiples qui sont extraordinaires et qui se dédoublent en permanence. Il faut jamais oublier qu'après, quand même, la critique de la parole, elle va arriver très vite dans le théâtre et tout, le théâtre de l'absurde. Et moi, je rappelle toujours que ça n'a rien à voir avec eux, mais Feydeau, c'est quelqu'un qui monte, c'est quand même notre grand théâtre de boulevard, c'est la dissolution du langage. Et quand les corps sont à vif, à nu, il met à nu les corps. C'est ça que je trouve, moi, extraordinaire. Et quand il fait le dictateur, oui, il va parler, ça a été dit de manière remarquable, à la fin, il est là dans un film politique, qui n'est pas un film à message, mais qui est un film qui vise quelqu'un, on le sait, c'est à travers Hinkel, celui qui est visé, c'est Hitler. Et il le fait de manière géniale, parce qu'il le prend d'une certaine manière à partie, corporellement et de manière langageuse. Mais quand même, le dictateur, on est quand même, on n'est pas sorti du monde, mais on vise quelqu'un, ce qui, d'une certaine manière, n'est pas son problème avant.
Mit seiner Klatsch, ey, der Stratz mit sich Gedenken da, in seiner Tratsch mit sich Gedenken, meine alle Täter, wieder straffen, die straffen, sie straffen!
Adenoid Hinkel a simplement dit, hier la Tomenia était tombée, aujourd'hui nous l'avons relevée.
Juste avant un extrait du Dictateur, donc film de 1940, c'est extraordinaire.
Oui, d'ailleurs, là, vous voyez, en entendant un très coup même, c'est la manière dont il joue sur la langue pour la déstructurer, pour casser la langue, là. On sait pas quelle langue il parle, là, à ce moment-là, d'ailleurs.
Le spectre du rapport à la parole en ce film est, là aussi, extrêmement large. C'est qu'on a une totale dérision de la parole, et en même temps, un respect immense de ce que pourrait peut-être la parole, dont Chaplin a su évidemment très vite que le but recherché n'avait pas été atteint et que évidemment le dictateur n'a rien empêché, mais le fait de prendre la parole à ce moment-là, d'ailleurs avant qu'il
ça lui a valu pas mal d'ennuis, ce film.
De toute façon, c'est vraiment États-Unis. Un film que personne ne voulait aux États-Unis. On sait que les
censurés en France durant toute la guerre.
Le pays peut-être qui a le plus apprécié au moment où il est sorti le dictateur, c'est l'Angleterre, parce que l'Angleterre était déjà sous les bombes du Blitz, et avoir cette vision totalement bouffonne de Hitler sur un écran était pour eux une bouffée d'air frais extraordinaire. Mais on a vraiment les deux aspects. On a à la fois le côté parler pour ne rien dire ou parler peut-être pour au contraire de manière sous-jacente beaucoup trop en dire, parce que sous les discours de Hinkle, il y a des puissants fonds de haine et de destruction potentielle. Et puis, l'idée que peut-être, c'est ce que lui dit un personnage avant qu'il monte en, il monte en tribune à la fin, et qu'il lui dit, vous devez parler. Comme si, et c'est vrai que ça aura quand même un prix, cette prise de parole. C'est que c'est le moment, on se demande toujours à quel moment le personnage du vagabond disparaît-il. C'est assez compliqué de vraiment déterminer précisément le moment où ce personnage, qui est un personnage assez, qui a jamais très variable dans les films antérieurs déjà. Mais enfin, c'est quand même un personnage très reconnaissable. Et on peut dire quand même que le sacrifice de ce personnage est totalement fait à la fin du dictateur. Il ne reviendra plus après le dictateur, après cette prise de parole.
C'est son chef-d'œuvre.
En même temps, là, moi, je trouve c'est qu'il arrive à un moment, mais qui est quasi carnavalesque, puisque effectivement, il arrive à renverser le haut et le bas. C'est-à-dire qu'il arrive à faire
puisqu'il
croire.
Puisqu'il joue, il faut le personnage. Préciser aux auditeurs, voilà. Il a à la fois un barbier juif et Hitler.
Pour quelqu'un qui est toujours pris entre le haut et le bas toute sa vie, la victime qui sait qu'est bon. Et là, c'est très intéressant de voir que d'une certaine manière, il renverse la situation. Et ça, c'est ce qu'on appelle le carnavalesque, qui est si difficile à gagner dans le comique.
Le dictateur, c'est un peu le sommet de l'œuvre de Chaplin. Mais l'après-guerre, finalement, enfin, le dictateur, c'est 40. Oui. L'après-guerre ne va pas être très tendre avec lui. Parce que les films suivant Monsieur Verdoux, où il joue, qui a pour le coup un film très sombre, où il joue un sosie de Landru, ne va pas être un grand... Je crois que c'est son plus gros échec
public. Oui, c'est un film qui va être détesté aux États-Unis, vraiment détesté. Détesté en particulier par la presse. On connaît cette conférence de presse au début de laquelle Chaplin, je me rappelle plus l'expression exacte qu'il utilise, mais c'est en gros... Allez-y, tirez, commencez le travail de destruction. Il savait que là, il était un moment où, après avoir été l'homme le plus aimé de son temps, il commençait à devenir, aux États-Unis, un personnage très, très détesté par certains. Pour plein de raisons, pour des raisons très, très diverses.
Pour vous, ces films, c'est le pessimisme de l'homme qui a subi toutes ces attaques, le macartisme, l'exil.
Non, c'est quand même la vision très noire qu'il a des États-Unis et Verdoux qui Verdoux est un personnage qui a tous les défauts de ceux qu'il n'aime pas, mais il montre que lui, il va être condamné, il va être guillotiné, tout ce qu'on veut. Et Verdoux, en même temps, c'est d'une certaine manière, c'est un petit homme qui fait les choses sales comme d'autres, mais finalement, il est peut-être moins responsable que les autres. C'est ça qu'il nous dit. Hein. Et ça, c'est quand même très très fort. Un Roi à New York, qui est un film très intéressant, c'est une espèce d'autodérision, parce qu'il se moque effectivement d'un clown qui pourrait être lui-même. Et c'est toujours la même chose, c'est le grand devient petit. Hein. C'est le grand devient petit, le grand clown qui devient petit. On va rire de lui. C'est une manière de rire de lui-même. Et c'est là où, moi, je trouve Chaplin est un génie, à la fin, de renverser son image avec Verdoux, avec un Roi à New York.
Hein, et dans Les Feux de la Rampe aussi, puisqu'il
alors,
joue
Les Feux de la Rampe, pour moi, est un chef-d'œuvre absolu.
Un clown,
on trouve Keaton à la fin. C'est une
espèce
d'autodérision sur le clown qui, je trouve, c'est pour ça que c'est une œuvre, mais vous en parlerez mieux que moi, c'est une œuvre qui, si on la prend du début à la fin, qui a une histoire incroyable, avec une capacité de retour sur lui-même, de se moquer un peu de lui-même, hein, à travers des choses qui sont quand même très noires. Et à mon avis, c'est ça, la grande force de Chaplin, on n'a pas d'équivalent.
On parlait tout à l'heure de la façon dont son œuvre s'est inscrite dans le siècle et dans son histoire.
Voilà.
Ce qui est très étonnant, c'est effectivement à quel point c'est une œuvre infiniment personnelle et infiniment ouverte à tous les soubresauts de la Première à la Deuxième Guerre mondiale et après au macartisme. C'est quand même Un Roi à New York qui a, je connais pas d'autres films qui, en 57,
soit aussi dur,
représente un tribunal, une session de la commission des activités anti-américaines d'une manière aussi ravageuse.
Qui s'acharne sur
le roi Shadow avec ce fameux gag de la lance incendie bloquée par le doigt et qui se répand sur tous les représentants de la commission. Mais ce qu'il faut pas oublier, ce que je veux dire par là, c'est que entre le dictateur et Verdoux, il y a quand même la guerre, et que ce qu'il avait pu espérer contribuer à empêcher, peut-être le mot est un peu grand, mais enfin, en tout cas, il avait voulu apporter sa contribution au pacifisme avec le dictateur, il est conscient qu'il n'a absolument rien empêché et que l'humanité a vécu les plus noires heures de son histoire. Et là, Verdoux est au moins autant un film de discours que le dictateur, le grand discours final, le procès.
Verdoux, il joue un sosie, un personnage inspiré de Landru.
Et à la fin, il tient un discours, mais un discours totalement désabusé et en même temps étrangement idéaliste. C'est très étonnant. On parle souvent de cynisme. J'emploierai pas le mot de cynisme.
Non, il y a toujours les deux.
Donc Chaplin, génie pétri de paradoxes.
La comtesse de Hong Kong qui est un final. Il prend les deux stars. Bon, on est en bateau en plus déjà, donc il y a le côté migrant. On est sur l'Atlantique. On a les deux stars de l'époque, Lorraine d'un côté et Marlon Brando. Et finalement, Marlon Brando à la fin du voyage va pas partir avec sa femme, mais il va partir avec la femme de chambre de voilà. Donc on retrouve la thématique. C'est le grand qui part avec le petit. Hein. Même c'est pas son plus grand film, c'est une évidence. Bon.
Vous parliez tout à l'heure, Jean-François Buéret, de la façon dont son œuvre s'inscrit dans le siècle. Il faudrait parler de la façon dont son œuvre a inspiré énormément d'artistes en général. On parlait des surréalistes tout à l'heure, mais aussi beaucoup de cinéastes. Alors, Pauline, notre réalisatrice, est allée chercher dans les archives de l'INA et de RFI quelques témoignages de cinéastes contemporains qui parlent de Chaplin. Écoutez-les. Alors, dans l'ordre, Pierre Etex, Mahamat Saleh Haroun, Denis Podalydès et Idrissa Ouedraogo.
Il n'y a jamais eu aussi bien. Ce sont des maîtres, ce sont des gens qui ont fait rire leurs contemporains et qui aujourd'hui, si on pouvait les voir, enfin on s'en rend compte avec les films de Chaplin par exemple qui ressortent actuellement, on s'en rend compte qu'aujourd'hui ces mêmes choses ont la même vertu.
Chaplin c'est vraiment mon ancêtre un peu, moi c'est le patriarche hein, et je me dis qu'il y a des familles descendant toutes de Chaplin et... Quand on voit les films de Chaplin, il y a quelque chose comme ça, de documenter sur son époque, témoigner et tout, c'était très important.
Je suis toujours ébahi devant le pouvoir comique de Chaplin ou de Keaton, et je suis toujours très heureux quand tout le monde est touché.
Moi j'avoue que les premiers films que j'ai toujours regardés, que je continue à regarder, c'est beaucoup les films de Charlie Chaplin. Je me suis dit, c'est tellement fantastique de s'exprimer, surtout dans des pays comme le mien où il y a 42 langues différentes les unes des autres, par l'image.
Chaplin, artiste universel, hein. Deux Français, un Tchadien, un Burkinabé. C'est là qu'on voit aussi l'influence mondiale de ce cinéaste.
Et sur la durée, une des choses aussi qu'on oublie de rappeler, c'est que c'est quand même quelqu'un qui commence à faire des films en 1914. Quel cinéaste a pu continuer à être vu pas seulement comme un objet d'archéologie cinématographique, mais vraiment vu avec passion, avec émotion, plus de 50 ans, 60, 70 ans après ses débuts. Peut-être aujourd'hui est-il devenu plus un objet de patrimoine, mais je pense à titre personnel avoir fait partie de la dernière génération pour qui Chaplin était une star contemporaine, alors que je suis né 50 ans après ses débuts de réalisateur. Mais pour moi, c'était un homme, c'était une star de mon temps, et je me rappelle de la mort en plus, un jour de Noël, c'était terrible pour un enfant. Mais même s'il est aujourd'hui peut-être devenu un peu plus un objet de patrimoine pour plein de raisons, ce qui est fou, c'est que quand même, il continue à croiser des questions complètement actuelles. Par exemple, si on prend la question toute récente et quand même assez fondamentale dans la société française des Gilets jaunes, une des questions importantes, c'est-elle un problème, un sentiment de non-reconnaissance ? Et la question de la reconnaissance, être reconnu ou non pour soi-même, ça traverse toute l'œuvre de Chaplin. On cite souvent comme l'exemple le plus flagrant de ça le gag des Lumières de la Ville avec ce milliardaire qui fait de Charlot son ami pour la vie quand il en est à l'ébriété et qui ne le reconnaît plus du tout dès qu'il est à nouveau à jeun. Mais on pourrait en trouver... Je m'étais fait en rapport avec cette question de ce drame de la non-reconnaissance, qui est un ressort en même temps assez ancien du mélodrame. Mais voilà, des invisibles, des gens qui ont l'impression d'être transparents. Et il y a un gag très beau aussi dans La Rue vers l'or, tout simple, mais où Chaplin arrive, le prospecteur, il arrive dans un saloon, il ne connaît personne, et il voit en face de lui une jeune femme merveilleuse qui semble réagir à son arrivée, qui lui fait des grands sourires, et il est enchanté. Et puis en fait, il se rend pas compte qu'en fait, fait, ses sourires s'adressent à quelqu'un qui est juste derrière lui. Il est une espèce d'écran invisible. Il fait écran tout en étant transparent par rapport à cet autre personnage qui est derrière lui. Bizarrement, cet homme a toujours vécu, qui a atteint, encore une fois, une notoriété que personne d'autre n'a connue à ce point dans le champ cinématographique. Il a toujours vécu avec l'idée, possiblement, de retomber dans l'anonymat le plus total. Et Les Feux de la Rampe, c'est l'histoire d'un clown qui ne sait pas pourquoi il ne fait plus rire, qui a fait rire tout le monde et il ne sait pas pourquoi il ne fait plus rire. Et là, ça a sans doute des sources assez précises dans l'enfance de Chaplin, pour le coup.
C'est intéressant de parler des derniers projets des cinéastes. Le dernier projet de Chaplin, je crois que c'était un film sur le Christ. Est-ce que vous en savez plus?
Alors,
Jean-François Duret,
c'est quelque chose, c'est un de ces projets qui l'ont obsédé tout au long de sa carrière, le Christ, Napoléon, beaucoup aussi. Il semble quand même qu'un projet vraiment plus précis qu'il a en partie commencé à tourner à Vevey en Suisse de manière extrêmement familiale était une histoire, je crois que d'ailleurs qu'un livre a été consacré à ce film qui ne s'est finalement pas fait tout récemment, autour d'une sorte d'ange féminin, un personnage qui pourvu d'elle et qui arrivait dans le monde des hommes. Et c'était une histoire apparemment très douce amère, plus amère que douce, parce que finalement il s'avérait que cette créature ne trouvait, qui était absolument angélique à tous les sens du terme, ne trouvait absolument pas sa place dans la société des hommes. Et Chaplin, déjà très âgé, a entrepris un petit tournage, encore une fois tout à fait familial, en Suisse, et puis le film ne s'est pas terminé. C'était peut-être un rêve d'un dernier film qui de toute façon n'aurait pas pu se faire.
Merci à tous les deux.
Merci
Olivier Mongin, merci Jean-François Buret. Les petites questions à tous les deux, c'est quoi votre Chaplin préféré? Olivier.
Moi, c'est le cirque, je l'ai un peu dit tout à l'heure, j'adore cet épisode où un petit singe, donc un animal, est là à essayer de le faire tomber de son fil. Je trouve que beaucoup de choses sont dites sur le rapport entre l'humain, la violence, etc. Parce que moi, je pense que le côté contemporain de Chaplin, il est plus que jamais aujourd'hui. C'est pour ça que les enfants aiment Chaplin et Keaton aussi, mais c'est de comprendre que on peut convertir la violence. Et c'est ça la grande question. C'est pas pour rien qu'il va peut-être aussi regarder vers le Christ. Et c'est la grande question contemporaine. C'est convertir la violence. Après, la grande question pour moi, c'est pourquoi chez Chaplin, et on la trouve chez Keaton, qui joue beaucoup de l'imaginaire cinématographique, il n'y a pas tant d'imaginaire que ça, je dis ça parce que ça vient d'être évoqué, il n'y a pas tant de rêve, il n'y a pas tant d'imaginaire, il ne se laisse pas aller à l'imagination, il est comme très dans le réel, et c'est peut-être ça aussi sa force.
Jean-François Buret.
S'il ne fallait en choisir qu'un, je dirais quand même Les Lumières de la Ville. Tout simplement parce que la dernière scène, après l'avoir vue un nombre considérable de fois, continue à me faire le même effet qu'au premier jour, c'est-à-dire que c'est sans doute la scène la plus émouvante de l'histoire du cinéma.
On est toujours ému, voilà, c'est ça.
La scène de la vitrine. Alors d'ailleurs, pour les auditeurs, vous pouvez avoir une excellente analyse de cette scène dans une petite vidéo qui est dans le dossier que vous consacrez à Chaplin, Jean-François Buret, sur le site du Popli. Voilà, c'est sur Internet et c'est gratuit. Merci à tous les deux.
Merci.
Pour en
Merci.
Savoir plus, votre ouvrage aussi, Olivier Mongin, ça s'appelle Éclat de rire. D'autres ouvrages à recommander sur Chaplin, peut-être Le Chaplin cinéaste de Francis Borda, hein, c'est un grand
livre formidable.
Ouais. Non, mais je disais, on vient d'éditer les œuvres complètes. On va, s'agit pas d'acheter les œuvres complètes, mais il y a quand même un grand livre de Romain Orbazin sur Charlie Chaplin.
Voilà, on peut citer aussi la biographie de Michel Faucheux. Je ne sais pas si vous le recommandez,
De David Robinson.
Voilà, et aussi le biopic. Je ne sais pas si vous le recommandez de Richard Attenborough. Et puis, si vous vivez en France, eh bien cet été, sachez qu'une grande rétrospective lui est dédiée, 10 films et un programme de cours en salle à partir du 10 juillet. Tous les cinémas du monde, c'est fini. Au micro, Elisabeth Le Quéré. À la réalisation, Pauline Leduc. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma, avec une émission spéciale consacrée au cinéma algérien.
Vous avez raté la séance? Podcastez ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.